Bonsoir à tous, fidèles auditeurs et auditrices du studio. Il est 18h dans ce studio, 18h à Niamey et partout au Niger. Tout de suite, le journal en français au micro Diallo Mariama Kenda. Et voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Plus que 2 jours en principe pour la fin du Ramadan, occasion pour prélever la zakat el-fitr, une obligation pour tout musulman. Vous découvrirez son sens et la façon dont elle est prélevée dans ce journal. Célébration ce jour 12 juin de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants avec pour thème Génération Santé Sécurité. Vous entendrez le coordonnateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants Alten au sujet de l'importance de ce thème. Enfin ce soir, dans la partie magazine du journal, il sera question du processus d'adoption de la loi sur le quota, loi adoptée le 7 juin 2000 avec les témoignages des pionnières qui ont bataillé jusqu'au vote du texte. Messieurs, dames, ravis d'être en votre compagnie. La zakat el-fitr est une sunna du prophète, paix et salut sur lui, instaurée pour purifier le jeûneur des manquements observés au cours du mois de Ramadan et éviter aux musulmans de minuit demander le jour de réjouissance. Que faut-il donner comme zakat el-fitr? Comment la donner et à qui? Réponse avec Alpha Issa Mahamadou au micro de Moussa Hassan.
Le prophète a recommandé à tous les fidèles qui ont jeûné de donner du mil, du sorgho ou toute autre céréale consommée dans le pays à raison de 5 mesures de moud nabiou par personne, ce qui fait une tia pour chacun. Et on doit la lever pour toutes les personnes à sa charge, sans distinction entre ceux qui ont jeûné ou non. C'est un acte fortement récompensé. La zakat el-fitr se donne à mil, riz, maïs, sorgho, choukou et même macaroni, mais pas avec de l'argent. On peut commencer à l'offrir dès aujourd'hui aux nécessités de son entourage pour qu'ils soient heureux eux aussi le jour de la fête. Il faut le faire jusqu'à la veille de la fête. Si on tarde et le donne après la prière de Fitr, le prophète dit qu'il devient simple au monde.
Célébration ce jour 12 juin de la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants avec pour thème Génération Santé Sécurité. Au Niger, selon le coordonnateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants Alten, ce thème leur a permis de développer la prise en charge de la sécurité des jeunes travailleurs. Mahamadou Moussa.
Le thème nous a permis cette année de développer la prise en charge de la sécurité et de la santé des jeunes travailleurs, de faire en sorte que les conventions internationales en matière de gestion de la sécurité et de la santé s'appliquent aussi à eux, en dépit de leur spécificité, en dépit de leur manque de conscience par rapport globalement à la question de la dangerosité de certains types de travail. Le travail des enfants est un concept qui renferme un ensemble de dispositifs qui devraient permettre d'interdire les pires formes de travail aux enfants âgés de moins de 18 ans. Et dans cela, vous allez trouver la prostitution, les travaux dangereux et les travaux illicites ou interdits. La gestion de l'âge d'entrée au travail est gérée par une autre convention qu'on appelle la convention 132, l'âge minimum d'accès à l'emploi. Le Niger a arrêté 14 ans, mais il doit travailler dans des conditions où il y a un certain type d'encadrement qui ont été définis par le code du travail du Niger. Mais il y a aussi un autre aspect qui accompagne les pires formes, c'est les travaux dangereux. L'enfant qui travaille dans les mines d'exploitation d'or.
Mahamadou Moussa, coordonnateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants Alten. La semaine dernière, le réseau parlementaire pour l'éducation et le développement était à Tamaradi et Mayayi pour des séances de consultation de vulgarisation du décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille à l'école. L'État s'engage ainsi à prendre des mesures fortes pour permettre le maintien de la jeune fille à l'école. Le directeur régional de l'enseignement primaire de Maradi, Abdou Maman Namadi, nous en dit plus au micro de Mohamed Maman.
L'État s'engage à prendre des mesures spéciales pour favoriser le maintien à travers l'adoption de mesures pour accompagner la régularité de leur fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire à travers notamment l'ouverture d'internats, des cantines scolaires, l'attribution des rations alimentaires, l'octroi de bourses et autres subventions pour études. Les chefs des établissements, les parents, les membres des structures de gestion des établissements scolaires ainsi que toute personne informée sont tenus de dénoncer tout acte susceptible de compromettre la scolarité de la jeune fille et d'informer immédiatement les autorités compétentes de la surveillance de tels actes.
Propos recueillis par Mohamed Moman. L'École nationale de santé publique NSP de Niamey organise périodiquement des conférences sur des thèmes relatifs à certaines pathologies à l'intention des étudiants. Ce matin, le thème était la prise en charge du diabète animée par Dr Abdulaziz Moumouni. Pourquoi l'organisation de ces conférences à l'intention de l'étudiant, des étudiants de l'NSP, c'est la question que Gungouma Mandantani a posée au coordinateur de la section sciences infirmerie de l'NSP de Niamey, Boubacar Tchombiano, qui explique.
Cette conférence a pour but de renforcer les enseignements reçus au niveau de l'NSP de Mouzika et permettre aux étudiants de participer à la lutte contre certaines maladies telles que le diabète. Ça fait partie du programme de l'école. Depuis la création de l'école, les conférences se tiennent régulièrement au niveau de l'NSP pour pouvoir renforcer et permettre aux étudiants de prendre en charge certaines maladies. C'est tout simplement une mise à jour. C'est différent de cours théoriques. Ici, il s'agit des spécialistes dans le domaine qui viennent donner les informations nécessaires, utiles au niveau de cette école-là pour qu'ils puissent vraiment valablement, convenablement prendre en charge certaines pathologies. Si vous prenez le diabète, c'est une maladie d'actualité. Et vous voyez, tout ça, ça va contribuer de façon significative à prendre en charge ces cas. Voilà pourquoi nous avons organisé cette conférence-là à l'intention des étudiants. Vous savez, la science, elle évolue. De telle sorte qu'il n'y a que les spécialistes qui détiennent souvent les dernières informations et nous tenons à ce qu'ils partagent cette information-là avec nos étudiants. C'est vraiment dans ce sens-là.
Les épreuves du brevet de fin d'études du premier cycle BEPC, session de 2018, débuteront dans 2 semaines, précisément le 26 juin prochain au Niger. Au niveau des établissements scolaires, enseignants et candidats s'activent pour être au rendez-vous. Notre reporter Asmane Achina s'est rendu au CS Yantala de Niamey. Voici son reportage.
Au complexe scolaire Yantala de Niamey, tout est presque fin prêt pour le déroulement de l'examen du BEPC prévu pour le 26 juin prochain. Ibrahim Maman Lawali, viseur du dit établissement.
On a bouclé presque le programme. On est à un taux de 98% d'exécution du programme. Mais il y a certaines disciplines où on a bouclé pratiquement le programme. Comme d'habitude, on garde nos élèves jusqu'à la veille des examens avec nous parce que si on les laisse à la maison, ils ne vont pas réviser.
De leur côté, les candidats se préparent à affronter les épreuves à leur façon.
On s'exerce chaque fois. Le programme même se presse fini. En cas de besoin, si on est bloqué à un exercice, on demande l'appui des professeurs, ils nous aident dans toutes les matières.
On fait des travaux de groupe le soir. Ceux qui ont des professeurs font des cours. Par exemple, moi, j'ai des professeurs à la maison et puis on fait des cours à l'école. Pour l'instant, je n'ai pas vu aucune difficulté pour moi.
En attendant, les responsables des établissements scolaires conseillent les candidats de bien réviser leurs cours et de ne compter que sur leurs propres efforts.
Disparition d'un nouveau-né le 2 juin au centre mère et enfant d'Ottawa. Même si les recherches n'ont encore rien donné à ce jour, le directeur régional de la santé publique d'Ottawa dément la rumeur selon laquelle une femme aurait été arrêtée dans cette affaire. Docteur Amadou Adamou au micro de Abdoulaye Aoussouk.
Nous sommes toujours à la recherche. Jusqu'à présent, les recherches continuent. Nous portons l'espoir avec les prières qui sont faites que ce bébé soit retrouvé avec la grâce de Dieu. Nous avons eu des informations indiquant qu'une fillette abandonnée a été retrouvée aux abords de l'autogare de Kony. Nous avons envoyé les parents, mais après vérification, il s'est avéré que ce n'est pas le bébé concerné, car il y a un jour d'intervalle entre les deux. Étant donné qu'il y a l'implication des autorités et même la justice, il faut retenir que nous sommes toujours en attente. En tout cas, avec l'aide de Dieu, nous portons espoir et nous prions que Dieu apporte un éclairage dans cette affaire.
Pendant la première décade du mois de juin, plus de 100 villages agricoles ont semé. Dans l'ensemble, 985 villages ont semé sur plus de 3000 villages agricoles que compte la région des Indères, soit 29%. La campagne de cette année s'annonce prometteuse, même si par ailleurs l'on signale des cas de sécheresse dans certains endroits. Moussa Ibrahim, directeur régional de l'agriculture, fait le point ici sur la dernière situation.
En ce qui concerne la situation des semis, au cours donc de cette première décade de juin, nous avons au total 985 villages agricoles qui ont donc effectué des semis partiels sur les 3378 villages que compte la région de Zander, soit 29%. Au cours donc de cette décade, il faut noter que nous avons arrêté 183 nouveaux villages qui ont effectué des semis, dont 90 villages dans le département de Kanché. Vous avez 50 villages dans le département de Taketa, vous avez 9 villages dans le département de Tantou. Par ailleurs, il est très important de noter aussi que face donc à des problèmes de sécheresse et de vent de sable, nous avons malheureusement 158 villages qui ont perdu leur semis. Nous avons 18 villages dans le département de Dongas, vous avez 12 villages dans le département de Kanché, vous avez 122 villages dans le département de Magaria et 6 villages dans le département de Tantou.
Propos recueillis par Ali Keïta. Parlons culture dans ce journal. Le cinéma nigérien est en train de retrouver ses lettres de noblesse avec la génération des jeunes cinéastes, affirme le nouveau directeur général du Centre national de la cinématographie du Niger. Pour Sani Magori, plusieurs projets sont en cours pour redonner l'image du cinéma nigérien qui, jadis, faisait la fierté de toute l'Afrique. Il est au micro de Habibou Garba.
Le cinéma continue son bonhomme de chemin. Il y a une génération des jeunes cinéastes qui s'activent à donner le meilleur d'elles-mêmes pour vraiment faire du cinéma et permettre au cinéma nigérien de retrouver son chemin. Déjà, nous avons une très bonne volonté des gens qui évoluent de façon individuelle. Donc, c'est de capter cette énergie. Et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire, à connecter les gens vers des réseaux qui vont les encourager et leur permettre de se voir et de montrer ce qu'ils font. Nous avons aussi créé des liens avec les institutions locales, télévision, les radios. Et nous allons très bientôt, en tout cas, relancer des projets vraiment de proximité. Il n'y a pas eu plus de moyens qu'avant. D'ailleurs, il y en a moins. C'est l'occasion aussi de penser effectivement à doter de ces moyens. Mais nous pensons que notre cinéma souffre beaucoup plus de la structuration que des moyens. Parce que même avant, il n'y avait pas ces moyens-là. Mais avant, la filière était structurée. Il y a des salles de cinéma où voir des films, il y a des endroits où acheter des films. Aujourd'hui, tout est déconnecté. Donc nous sommes en train de brancher câble par câble, en tout cas les prises qui sont déjà existantes, pour vraiment donner un nouveau souffle à ce cinéma-là.
La partie magazine de ce journal, à présent, comme promis, il sera question du processus d'adoption de la loi sur le quota, loi adoptée le 7 juin 2000 avec les témoignages des pionnières qui ont bataillé jusqu'au vote du texte.
Soucieuse de faire progresser la participation politique des Nigériennes, Mme Fumakwe Nana Aishatou, ministre de la promotion de la femme en 2000, s'inspire du plan d'action de l'Union interparlementaire. Le texte de loi qu'elle écrit alors prévoit un quota minimum de 30% de femmes aux postes électifs et aux postes nominatifs.
Pour convaincre par rapport aux hommes qui étaient en conseil d'abord des ministres et à l'Assemblée, j'avais le soutien des premières autorités, le président de la République et le premier ministre, en tout cas, ont farouchement défendu et soutenu vivement. Ils ont fait un plaidoyer tel qu'ils ont amené les ministres qui n'avaient beaucoup qui étaient réticents à accepter et à faire en sorte que la loi puisse passer conformément à ce qu'on avait arrêté.
À l'Assemblée, sur les 83 députés, une seule femme siège. Madame Munkaila Aissata, malgré les efforts de mobilisation des parlementaires entrepris par le gouvernement, la tâche est ardue. Certains députés, particulièrement les opérateurs économiques, sont hostiles. Madame Fumakwe Nana Aishatou, ministre de la promotion de la femme à l'époque, témoigne.
Pour les 25%, c'était OK pour les fonctions de nomination. Mais ils ont ramené pour les fonctions électives, évidemment, comme c'est eux qui sont concernés, les hommes, comme c'est eux les députés, c'est eux qu'on élit. Il y en a qui disent, même si c'est 100% que vous voulez, allez-y pour les fonctions de nomination. Mais pour les fonctions électives, là, on maintient 10%.
Finalement, à presque minuit, le texte est adopté. La mort dans l'âme, la ministre se résout. De 30%, le quota des postes électifs est descendu à 10%, malgré la pression muette des femmes venues écouter les débats. Madame Munkaila Aissata, l'unique femme députée ce jour-là, se souvient.
Les femmes étaient nombreuses à l'Assemblée nationale, le jour même de la discussion de la loi et du vote de la loi. Mais comme les femmes qui sont venues ne peuvent pas prendre la parole au niveau du Parlement, elles étaient à l'étage, moi seul, je ne peux pas défendre la loi. Les hommes parlementaires, nombreux qu'ils sont, qui sont réfractaires à cette loi sur le quota, dans les discussions, bon gré, mal gré, les hommes n'ont accepté que 10%.
Reportage signé Rukayatou Abdourahmane. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le forum de Studio Kalingo présenté par Balkissa Amidou. C'est au sujet de la loi sur le quota.